Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, la deuxième heure de Roten sans flamme. Et oui, déjà la deuxième heure, on est là bien sûr jusqu'à 20h comme tous les soirs. Vous en avez l'habitude maintenant du lundi au vendredi. On s'éclate, on refait le foot avec Jean-Louis Tour ce soir, avec Manu Petit, avec Eric Dimeco. Si vous avez raté la première heure, bah, c'est pas bien parce que vous avez raté ma victoire dans le fait d'entrer l'accusé. Donc je vous conseille de la réécouter dans le vente. Podcast. Non, mais...
Déjà disponible. Et excuse-moi, je suis en train de faire le lancement de la deuxième heure et t'es en train de me couper. Je parle à la France, Manu. Là.
Petit tournesol.
Ouais. C'est ça. Ouais.
Donc là, faut podcaster pour comprendre.
T'as perdu,
évidemment.
T'as perdu.
On embrasse Ney. Dans cette deuxième heure, les derniers enjeux en Ligue 1, le maintien dans une seconde et les dernières places pour l'Europe. Monaco peut tout perdre sur ces deux dernières journées.
Ah oui.
Faut-il faire une grande révolution au club, quel que soit le classement, 32-16 pour monter sur le ring des supporters de 19h30. À 19h45, le quiz, c'est Roten contre le reste du monde. Et je sais que je vais motiver Eric et Manu, puisque Jérôme a perdu hier.
Oh, bah non.
Donc Jérôme est en course pour une cuillère de bois, éventuellement.
Il fait 5 défis.
C'était quoi l'équipe hier contre lui?
Pascal Olmeta,
Jean-Michel Larquet. Contre Pascal.
Tu as perdu contre Pascal et Jean-Michel.
Ouais. Bah, attends, ouais, Jean-Michel, il est bon.
Quoi, dis-moi, toi aussi, tu finis mal la saison quand même. Hein, tu as dû faire des erreurs de management. Hein.
Voilà. Comme pourquoi Tudor.
Ben je sais pas, moi je sais pas.
J'ai du mal à gagner, c'est vrai.
Mais Eric, il a pas de plan B non plus.
Et c'est ça le problème, c'est qu'il a pas de plan B. C'est-à-dire, si Jean-Louis est pas avec lui, il sait plus
comme
comment faire.
Équipes, voilà.
Et bah, on embrasse Benoît Boutron.
Alors, le coup,
on embrasse Benoît Boutron.
Ah,
il sera content. Non, mais parce qu'il met une couche à Benoît. Parce que quand t'es pas là, c'est Benoît qui arrive. Donc il met une couche, c'est gratuit. C'est pas très cool pour lui.
Avec les infiltrés.
Qui, Minou?
Oui.
Minou, oui.
Minou,
alors, c'est quand même que c'est Minou.
Le quiz tout à l'heure, il y a une semaine dans une résidence Lagrange à gagner. Pour vous inscrire, vous envoyez top par SMS au 732. C'est tout de suite. Quelle saison pour le FC Quita?
Je ne suis pas parti, je suis toujours là. Je sais qu'il y a longtemps que vous souhaitiez que je parte.
Et maintenant, c'est qui le patron?
Je peux faire les grimaces, mais si vous faites des grimaces, je ne reviendrai plus. Hein.
Vous comparez une Mercedes avec une de chevaux.
C'est qui le patron?
Et quand on a besoin des moyens, il faut se le donner. Sinon, on va disparaître.
Vous êtes culotté quand même, hein. C'est un provocateur, on sait très bien.
C'est moi le patron!
Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe.
C'est moi le patron!
J'aime la vie, j'aime le sexe.
Alors, c'est donc le point chaud de la fin de saison. Qui va accompagner Ajaccio Angers 3 en Ligue 2? Brest s'est mathématiquement sauvé ce week-end. Strasbourg quasiment également, hein, il reste un point à prendre pour être tranquille. Le dernier billet pour la Ligue 2 va se jouer entre Auxerre, 16e, 34 points, et Nantes, 17e, 33 points. Auxerre va à Toulouse et reçoit Lens, pendant que Nantes va à Lille et reçoit Angers. Nantes qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis mi-février. Qui est responsable de cette descente aux enfers? Le président Kita, Antoine Comboiré, l'entraîneur limogé il y a deux rencontres, ou les joueurs qui ont totalement perdu le fil? 32-16, appelez-nous pour débattre. On a quelques infos à vous donner avec Pierre-Yves Leroux, notre correspondant dans l'Ouest. Salut Pierre-Yves.
Salut Pierre-Yves. Salut Jérôme. Salut à tous.
Ça angoisse à tous les étages.
Oui, c'est ça. Bah, bien sûr, hein, vous en doutez, puisque ça peut être plié dès samedi soir, hein, en cas de victoire d'Auxerre à Toulouse et puis de victoire de Lille contre les Jaunes et Verts. Il y aurait trop d'écart pour que les Canaries reviennent. Donc forcément, dans les bureaux, c'est l'angoisse. L'ambiance est très morose parce que le FC Nantes a connu, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, c'était en 2007 et 2009, des relégations déjà. On sait que derrière, ça peut avoir des effets. En 2007, il y avait eu 6 salariés qui avaient pris un plan de départ. Voilà, donc il peut y avoir des licenciements, évidemment. Du côté de l'équipe, 100 jours aujourd'hui sans victoire en Ligue 1, c'est énorme. Pas un seul but en Ligue 1 depuis 30 jours, donc dynamique catastrophique. Donc du côté des joueurs, Pierre Aristouille a dit très clairement qu'il y avait des joueurs qui avaient peur qu'ils ne joueraient pas ce week-end, parce que il faut éviter la contagion aussi de cette... Donc il faut s'appuyer éventuellement sur des jeunes comme Apua qui a fait son entrée lors du dernier match. Ça n'a pas été extraordinaire, mais ça a apporté quand même un certain dynamisme. Et puis c'est déjà la perspective de l'année prochaine. Quelle équipe? Qui, si c'est en Ligue 2, ça sera sans doute pas avec Pierre Aristouille, parce que ça veut dire payer 25 000 euros par match, puisqu'il a pas son BEPF. On sait que ça sera plus avec Lafond, que ça sera plus avec Blas, ça sera plus avec Delors qui repartira, ça sera plus avec avec Mohamed également, mais quid des joueurs qui sont toujours sous contrat? Est-ce qu'ils auront envie? Est-ce que ils pourront partir? Parce que il y a une clause de contrat qui dit si vous descendez en Ligue 2, vous serez payé 10 000 ou 15 000 euros selon les cas. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et puis juste pour info, sachez que les féminines et la réserve pourraient descendre également dans les 15 jours.
Oh, ah ouais, c'est la cata
totale.
Quelle saison?
Jérôme, qui est responsable de tout ça?
Bon, c'est difficile de faire. Pierre-Yves, il nous donne plein d'éléments. C'est que le club va mal dans son ensemble, dans tous les cas. Mais c'est pas que la première année. Je pense que la victoire en Coupe de France a été l'arbre qui cachait la forêt. Il y a une mésentente déjà à la base entre le.
La défaite, tu veux dire?
Non, la victoire en Coupe de France
l'année dernière
pardon, ouais, qui leur a offert l'Europa League.
C'est une gifle.
Ben oui, mais c'est pareil. Là, tu l'as pris. Ça s'était passé dans l'autre sens l'année dernière avec cette défaite, Manu. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même enthousiasme sur le mercato d'été et puis les mêmes des ambitions nouvelles dans le club.
Tu penses justement ils ont été enthousiastes sur le mercato estival l'année dernière?
Non,
je me rappelle justement le fin août où quand Boiré prenait position dans la presse.
En disant qu'on lui avait pas renforcé.
Exactement.
L'équipe. Ouais, mais à l'arrivée, il lui a gardé la majorité des joueurs. Il y a que Colomoigny qui est parti libre, ouais, mais ça c'était prévu.
Tu allais jouer tous les trois jours, l'effectif, ouais, il a pas été mais, non plus élargi,
mais
quoi.
N'empêche qu'il a fait du recrutement, encore au mercato d'hiver.
Ah, c'est autre chose, mercato d'hiver.
Il y a eu du recrutement, il y a eu des réajustements. Maintenant, peut-être tardif, comme tu le dis, mais moi je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, quant à ton propriétaire, le propriétaire qui est là depuis maintenant plus de 15 ans, plus personne peut le voir là-bas. Je me demande pourquoi il s'entête, pourquoi il cherche pas un repreneur. Alors lui est venu nous expliquer là, le président Kita, que il était ouvert à toutes les offres. Mais bon, il y a offre et offre, je pense. Mais médiatiquement, je pense qu'il communique pas assez sur le fait que le club est à vendre.
Ça me rappelle Saint-Étienne un peu. Tu vois.
Et peut-être que ça calmerait un peu les ardeurs de ses détracteurs. N'empêche que aujourd'hui, il est rattrapé par la patrouille parce que les résultats sportifs, le club est en danger à tous les niveaux. Et ça, c'est problématique. C'est pas un changement d'entraîneur juste qui pouvait régler le problème, parce que le problème, c'était pas Comboiré cette année, que Comboiré. Comme l'année dernière, c'était pas que Comboiré, grâce à Comboiré que t'avais gagné la Coupe de France. Mais c'est un ensemble de choses. Je pense que les joueurs, la plupart, ils sont, je sais pas si on peut dire le confort ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils se rendent pas compte dans quel club ils sont, que l'histoire peut-être a été mise trop facilement de côté.
Quand tu fais des gros matchs en Coupe, tu te sens pas un peu au-dessus, du coup, de certains matchs de Ligue 1?
Moi, je pense que c'est un problème d'appréhension aussi, d'approche sur certains matchs. Tu peux pas faire des matchs de Coupe d'Europe comme ils ont fait, si tu veux.
Voilà. La réponse à ta question.
Et le faire comme ils faisaient en championnat. Je pense que c'est vraiment l'ADN du club. Du moins.
La Coupe.
J'aime bien l'identité du club. J'aime bien qu'elle soit mise en avant, qu'elle transpire dans la peau de certains joueurs. Et le problème, c'est que cet ADN-là, ils se sont coupés de ça il y a quelques années. Et le président Kita a peut-être fait une erreur de ce côté-là. Le jeu à la Nantaise, comme c'était le cas avant, la formation, le ceci. Oui, bien sûr que on parle d'années qui n'existent plus aujourd'hui. Mais n'empêche que Nantes, c'est comme ça.
T'as pu gagner la Coupe de France l'année dernière, faire une bonne saison.
Oui, mais pas
sans le jeu à la Nantaise.
Mais pas dans ce que représente l'ADN du club. Et le problème, c'est que quand tu te coupes trop facilement de ça,
oui,
et des choses qui n'ont pas été faites,
qui n'ont pas,
pas été mises en place en deux ans, hein, Jean-Louis, hein. Là, on parle de vingtaine d'années, tu vois, c'est un grand travail en amont. Le problème, c'est que tu le prends dans la tronche, c'est pas la première fois qu'ils vont descendre, peut-être en Ligue 2, mais là, est-ce qu'ils vont s'en remettre,
Manu?
Pour moi, alors c'est difficile de pointer du doigt des responsables quand l'ambulance est en train de brûler et tu vois justement le désastre sportif, économique et social qu'il peut y avoir.
Tu veux passer d'aller au Moscato demain?
Non, c'est pas ça. C'est que je suis en train de me dire, moi, quand j'écoute Comboiré, quand je regarde ce qui s'est passé après l'arrivée de Domenech, comme dans quel état était le club, il est arrivé comme un sauveur, c'est un ancien du club, il a été un grand joueur au FC Nantes. Je trouve que c'est un bon entraîneur également, Antoine Comboiré, et je trouve qu'il a fait de l'excellent travail l'année dernière et que normalement, on aurait dû lui donner les moyens d'aller encore plus haut et de stabiliser davantage le club sur le plan sportif, donc d'un point de vue structurel également. Je trouve que quand je revois encore ses conférences de presse l'été dernier, avant la fin du Mercato, où il montait au créneau. Rappelez-vous, à la fin de saison l'année dernière, il a dit, moi j'attends des garanties, je peux pas continuer comme ça, on a réalisé un exploit cette année avec le FC Nantes, j'ai besoin d'avoir des garanties pour pouvoir prolonger et me projeter sur la saison à venir.
Il a eu des garanties quand
même. Ah, il y a presque pas eu de recrutement les garanties, il les a eu à Mercato.
Voilà. Il a gardé tous ses joueurs, Manu.
Heureusement, tu joues la Coupe d'Europe.
Mais au contraire, fallait pas régénérer, Jérôme.
Exactement.
Ah bah ça, donc, il avait peur qu'il arrive de partout.
Regarde aujourd'hui où on en est, c'est-à-dire il peut toujours avoir peur, mais il va avoir peur avec eux en Ligue 2. Donc
il avait peur que Valdemar Quitta fasse un peu n'importe quoi sur le mercato.
Il s'est coupé tout de suite de Valdemar Quitta de toute façon, hein, dès qu'il est arrivé, et il savait bien que avec les agents qui l'entourent, ça pouvait
ça aussi j'allais en venir. N'importe quoi. Je rappelle
l'altercation avec un groupe un peu fermé.
J'allais en venir, c'est il y a pas très longtemps, il y a une altercation justement entre le fils et comment il s'appelle, Mojibaya. Bref, ça c'est un autre domaine, mais pour moi tout est lié. Et je pointerai peut-être quand même du doigt les joueurs, parce que excuse-moi, quand t'es capable de faire deux superbes parcours en coupe, que ça soit en coupe d'Europa League et également en coupe de France, et qu'au final les garçons ils sont en train de choisir leur match, et puis en termes de fraternité, je me rappelle encore là le pauvre Lafont qui était passé à travers ce week-end, mais je me rappelle il y a quelques semaines de ça un match super important où il fait une bourde pas possible, il y a pas un seul de ses coéquipiers qui vient le voir pour le réconforter. Je me dis les garçons, soit vous choisissez les matchs qui sont à la télé avec une espèce de valorisation à l'extérieur pour espérer vous servir de tremplin au niveau du club. Moi, je suis désolé, vous êtes les premiers responsables du fiasco.
Bon, bah voilà.
On y vient.
Eric, tu es d'accord avec Manu?
Mais tu sais, c'est quand même mon mot d'ordre chaque semaine. C'est que pour moi, toujours, les premiers responsables sont les joueurs. Et là, alors, c'est flagrant. Amusez-vous à prendre le calendrier. Donc, ils gagnent Lorient juste avant de jouer la Juve là-bas. Ils sont super bien au classement. Ils font un bon résultat et un bon match à la Juve. Derrière, ils se font éliminer une semaine après. Et là, regardez, catastrophe. Et derrière, ce qui est plus terrible. Et c'est là, et c'est pour ça que tu es obligé de pointer les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ont choisi leur match. C'est clair. Donc, quand il fallait se montrer contre la Juve, il y avait du monde. D'un coup, tu perds tous les matchs. Et puis, d'un coup, il y a Lens qui se présente à la Coupe de France. Bim, tu les élimines. Derrière, allez, branlez. Bim, il y a Lyon qui se présente en demi-finale. Oh là, c'est à la télé, il y a tout le monde qui te regarde parler. Bim, tu le gagnes, le match. Dis-moi, c'est pas les principaux responsables, c'est pas les joueurs. Ils ont pas choisi leur match. Ils ont pas choisi quand ça brille. Mais moi, je suis désolé. Premier les joueurs, l'entraîneur après. Et après, si vous voulez, on peut mettre peut-être à égalité le président parce qu'il y a un gros problème. Mais moi, si vous m'expliquez sur ce qui se passe à Nantes, que c'est pas les joueurs, parce que normalement, toi, Jérôme Rotten, parce que c'est toujours les entraîneurs, tu dois dire que c'est l'entraîneur. Mais moi, je suis désolé. C'est les joueurs. Voilà, complètement d'accord avec Manu. Mais là, plus les chiffres sont terribles. Le calendrier, les chiffres et les matchs sont terribles pour les joueurs.
Ils ont choisi leur match. Eric, tu peux pas dire que j'ai dit que c'était de la faute de Comboiré.
Les premiers responsables sont les joueurs.
Oui, mais sauf voilà, que.
C'est
que,
tout.
Est-ce que, est-ce
les mecs
que...
choisissent leur match, les mecs qui sont pas en forme. C'est peut-être parce qu'il faut regarder ce qu'ils font à côté quand ils sont pas en forme.
Eric,
donc à un moment donné, toi, tu avais besoin de ton entraîneur pour t'expliquer comment jouer. Manu, tu avais besoin de ton entraîneur. Je l'ai connu,
tu sentais aussi au moment quand tu faisais pas les efforts nécessaires, tu sentais au fond
Mais sauf qu'on peut pas mettre en avant le travail juste pour pas minimiser le rôle de Comboiré aussi. Et en effet,
il a ses responsabilités.
Moi, je le mets sur la même lignée que les joueurs.
Rappelle-toi ce qu'il a dit Comboiré il y a un mois de ça, avant qu'il se fasse virer. Chargé ses joueurs, il n'en pouvait plus de leur attitude.
D'accord. Alors, Comboiré, comment vous le définissez, Comboiré entraîneur?
Comme il a pas la quantité et la qualité dans son effectif, il peut pas mettre
faire injure à Comboiré, mais les qualités principales de Comboiré, je l'ai eu moi. Donc je le sais, c'est avant tout être un meneur d'homme.
Bah oui,
d'accord. Après, bien sûr,
qu'il a pas fait du bon
comme
travail.
Comme tout meneur d'homme, bien sûr qu'il y a un travail tactique à mettre en place, mais on peut pas dire que c'est un fin tacticien, d'accord.
Donc il joue deux finales consécutives dans un club.
Mais oui, mais c'est pas étonnant parce que vous me parlez des matchs de coupe où Nantes a été performant sur les deux dernières années. Ok, mais les matchs de coupe, comment ça se passe? On y est passé aussi par là. C'est surtout mentalement, psychologiquement, l'approche que tu as. Et cette approche-là, ils ont pas la même. même les joueurs en championnat. Donc automatiquement, il y a un rôle de Comboiré qui est pas minimisé là-dessus.
Je suis pas d'accord avec toi. Les joueurs considèrent les coupes comme des matchs de gala où il y a une valorisation, un éclairage incroyable. Et ils considèrent le championnat comme étant la routine du quotidien.
L'entraîneur, à vous entendre, psychologiquement, il sert à rien.
Il a certainement des responsabilités, mais quand je vois comment il est rentré dans la tronche des joueurs ces dernières semaines sur dans la communication après les matchs, quand je vois comment il est allé loin dans ses propos en disant que concrètement il disait que ses joueurs pour la plupart avaient lâché, quoi, que les mecs étaient plus focalisés justement sur le fait de vouloir partir se servir de certains matchs pour essayer de briller. Donc quelque part je me dis, mais comment tu peux gérer un groupe aujourd'hui? On va faire Monaco juste après. Mais c'est pas pareil, c'est la même chose.
Donc c'est les joueurs le problème. On va donner
Pierre, je te pose une question. Si Antoine Comboiré avait été viré par le président Kita au mois de janvier, parce que en effet les résultats sont pas à la hauteur de ses attentes.
Au mois de janvier, t'as encore le match d'Europa League à faire contre la Juve.
Non mais d'accord.
C'est dur de changer maintenant.
T'as vu les matchs qu'ils font contre la Juve en plus.
S'il l'avait viré à ce moment-là, parce qu'on sentait quand même que ça partait mal pour Nantes, même avec le recrutement. Qu'est-ce que vous auriez dit sur Kita, les médias?
Mais moi, je lui avais dit très clairement à Antoine Comboiré, au bout de 10-15 journées, il y a un totem d'immunité parce que vous avez gagné la Coupe de France. Et ça va vous porter. Donc forcément, il y a un moment, c'était compliqué de le sortir. En plus, il allait jouer la Juve. Ça n'a jamais été le bon moment, en fait.
Sauf que il a le dit bon très clairement, ça aurait été après la finale de la Coupe de France. C'est très dur à faire,
peut-être.
Hein. Mais c'est à ce moment-là quand justement il règle ses comptes.
Tu l'aurais remplacé. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jean-Louis? Qu'est-ce qu'il avait dit avant la finale? Il avait dit on joue la finale, on la gagne. J'ai bien compris que mes joueurs, de toute façon, ils allaient s'occuper du maintien après. Pourquoi? Parce que vous allez avoir Auxerre, Troyes, Brest, Strasbourg. Oh, c'est facile, ces équipes-là. On va le faire, le maintien. Et voilà, ils sont tombés dans un piège.
Alors, dis-moi, Pile, tu as de mémoire comme ça le classement de Nantes après la victoire contre l'Orient, juste avant de jouer la Juve là-bas? Tu l'as de tête parce qu'ils avaient gagné beaucoup de matchs.
Il n'est pas extraordinaire. Mais attends, Pierre-Yves va le regarder tranquillement.
Allez, c'est
parole aussi à Guillaume, supporter de Nantes, dans une seconde.
13e.
Ils étaient 13e.
Combien de points tu as de tête?
De tête?
Non, j'ai pas de tête.
Pas de tête.
Parfait.
Dis un chiffre au pif.
Pas loin. Hein. Dis n'importe quoi.
Personne ne vérifie.
Mais ils avaient 26, 27.
Je vais compter. C'est facile.
Bon, Pierre-Yves, on te libère. Parce qu'en plus, tu es sur la route pour aller à Cholet. Il y a un match de pro ce soir.
Ça, c'est beau.
On va à Wendy, bravo. Bien sûr. Donc ce sera ce soir. Et non, on continue le débat dans une seconde. Qui est responsable du fiasco? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h19 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, avec Eric Dimeco. Jean-Louis, on continue le programme. Donne-nous jusqu'à 20h.
Monaco, à 19h30. La grande révolution doit-elle avoir lieu, quel que soit le classement final de l'ASM 32-16, pour monter sur le ring des supporters? Nantes, qui est responsable du fiasco? Kita, Comboiré et les joueurs. Guillaume nous rejoint au 32-16.
Salut Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Guillaume. Bon alors, donne-nous ton analyse sur le FC Nantes.
Alors, vous écoutez, ça m'a fait rire et j'étais aussi bien d'accord avec Eric Dimeco. J'espère que vous allez me laisser parler, c'est peut-être mon jubilé. Hein, parce que quand on sera en Ligue 2, je pourrais plus vous appeler. À mon avis, on parlera beaucoup moins de Nantes. Première chose, Jérôme Roten, un coup, il dit oui, Kita, depuis 20 ans, il travaille mal. Et ensuite, il dit oui, mais qu'est-ce que vous auriez dit sur Kita s'il l'avait viré? Donc bon, un coup chaud, un coup froid. Faut bien savoir que depuis 20 ans, on parle de faire monter des jeunes, etc. Mais on sait très bien que c'est très dur pour des clubs comme Nantes, pour des clubs moyens, parce qu'il faut déjà, l'argent, il faut des moyens pour faire venir les jeunes. Et ça, c'est compliqué d'avoir les meilleurs jeunes pour les faire monter en Ligue 1. Donc ça, c'était la première chose. En 20 ans, c'est vrai qu'on a totalement changé de concept au niveau du club, mais parce que c'est la vie qui fait que voilà, maintenant c'est l'argent même pour les jeunes. Deuxième chose, je pense que l'Europe l'année dernière, c'était beau, il fallait la prendre et puis voilà. Mais l'année où il y a 4 descentes, c'était la pire année pour moi, sachant que quand même, faut bien retenir que on jouait le maintien déjà depuis 3, 4, 5 ans, donc on n'avait pas les épaules pour jouer sur tous les tableaux. Ça c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, Eric Dimeco, il tape sur les joueurs et je suis totalement d'accord. Là ça fait 12-10 matchs qu'on gagne pas. Il y a plus de Coupe de France, il y a plus rien. Les joueurs, sincèrement, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement. On n'a jamais autant payé les joueurs. La masse salariale de Nantes, ça faudrait demander à Pierre-Yves, mais elle a jamais été aussi grosse. Donc pour moi, ça c'est c'est peut-être l'erreur, j'en sais rien, mais ils s'en foutent, ils sortent le soir, ils vont draguer les minettes et puis ils vont jouer à la Beaujoire, ils ont une superbe ambiance, c'est frais, ils seront pas agressés, tout va bien. Sincèrement, moi je suis.
On joue le public à la Beaujoire, ça me fait de la peine pour eux.
Ben moi aussi.
Et une super ambiance, public jeune, enthousiaste.
Même si sincèrement, je suis plus dans les plus âgés, en Océane à regarder le foot, le match. Je suis moins à supporter que la Loire, mais bon voilà, c'est tout le stade fait que.
Donc tu comprends qu'on boirait quelque part quand il est monté un peu au créneau il y a quelques semaines, ils sont allés
presser
jouer.
Bien sûr, il avait raison de les insulter parce qu'il a dit ils sont vraiment mauvais ou je sais plus le mot qu'il a employé, c'était dur. Mais moi je m'en rendais même pas compte au moment où il l'a dit, mais tout à fait, il avait raison. Maintenant c'est vrai qu'ils l'ont lâché, donc fallait sûrement changer avant Brest. On a mis du temps. Il avait sûrement le totem d'immunité comme Boiré, parce que c'est vrai que s'il l'avait, là je vous entends, fallait le virer après la finale. Et vous imaginez, quitte à ce qu'il aurait pris dans la tronche, vous imaginez. Donc on pouvait pas le virer après la finale. Donc certes, je pense qu'à la moitié de la saison, on se rendait compte qu'il perdait son groupe. Et bon, mais c'est dur, hein, c'est facile à dire, et ça devait être compliqué de réagir et de virer le coach qui nous a fait gagner, qui nous a fait nous maintenir l'année dernière.
Non, attention, moi je parlais même de le virer après la finale, gagner l'année dernière. Hein.
C'est bien, mais vous imaginez ce que Kita aurait pris dans la tête Kita avait viré Camboré après une
finale. Et pourquoi ça. Il demandait des garanties à l'époque.
Déjà qu'il ne peut pas le supporter, les supporters. Là, je pense qu'il...
Mais quand tu vois les déclarations qu'il fait à ce moment-là, tu vois bien qu'il ne parle pas avec le président, qu'il ne veut pas prolonger son contrat, donc il va faire un an sans prolonger derrière. Bon, oui, c'est sûr que c'est pas facile.
Avec lui. Il avait des supporters avec lui, donc de toute façon, il pouvait dire ce qu'il voulait. Avec le tout
autour
de
lui, on était
avec lui.
D'ailleurs,
de toute façon, quoi qu'il fasse, il aura le public contre lui. On trouvera toujours quelque chose, pile ou face, contre lui.
Est-ce qu'on connaît un petit peu les raisons pour lesquelles il y a eu cette altercation entre le fils Kita
Moji Bayat
C'était aux approches du vestiaire, hein,
a priori,
contre Montpellier, non c'est
a
pas
priori,
ça
Moji Bayat a perdu de l'influence à Nantes, alors qu'il en avait énormément lorsque c'était Valdemar Kita qui prenait toutes les décisions. Là, depuis, Valdemar Kita s'est mis en retrait au profit de son fils, donc Franck Kita. Ça bosse moins avec Moji Bayat. Il a notamment, visiblement, été sommé de ne plus approcher l'équipe première. Et là, il s'est retrouvé, sur le parc.
Pour lui enlever du pouvoir.
Oui, c'est ça. Parce
qu'il a une influence auprès des joueurs.
Parce qu'il est agent de certains joueurs, mais il n'a pas à être comme directeur sportif du FC Nantes, donc à être présent auprès de l'équipe première. Je pense que c'est ça le raisonnement. Et là, il était présent à ce moment-là. Oui, vas-y, Guillaume, complète, bien sûr.
Pardon. C'est paradoxal, hein, parce que cette année, le vent a tourné. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Moji Bayat est un peu écarté. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait les tensions avec Kita père. Kita fils fait un petit peu mieux le boulot, j'ai l'impression. Et a laissé les mains libres à Camboiré, a fait un recrutement qui a été mauvais. Et c'est là où je trouve ça paradoxal. Pour une fois qu'on laisse faire le coach, on se plante.
Oui, c'est vrai que le mercato,
Adjam, Mollet, Delors,
d'été, il n'y a rien eu. Et oui, cet hiver,
Delors,
Mollet, ça ne répond pas aux attentes.
Il y a juste 111 qui est à peu près correct. Et puis Adjam qui est peut-être en devenir, mais c'est trop léger pour jouer ce
Bon, c'est pas fini en tout cas, hein, pour le maintien.
Non, c'est
pour
pas
prendre
fini,
un point à Auxerre en deux journées. Mais il faut déjà commencer par gagner.
Tu vas à Lille.
Il y a Angers en dernière journée.
Ouais, mais t'as Lille avant quand même.
Mais Angers joue mieux que Nantes aujourd'hui.
Mais on est d'accord. J'ai plus le classement de tête, mais si Nantes gagne les derniers matchs et que Auxerre perd tout.
Il y a un point et la différence de but pour Nantes. Donc,
vous avez vu contre qui joue Auxerre? Lens qui n'a plus rien à jouer, ils sont deuxième. Ils reçoivent en dernier match Lens.
C'est vrai.
Et Toulouse qui va peut-être se régaler de laisser un petit coin au Serre parce que on les a empêchés de monter il y a deux ans.
Non, mais c'est vrai que c'est pas fait, c'est pas simple du tout pour Nantes. Guillaume, merci en tout cas.
Merci Guillaume en tout cas.
C'était peut-être ma dernière.
Mais non, c'était pas ta dernière. Tu reviendras.
Tu peux nous appeler. Appelle le Moscato Show pour parler de rugby. Tu verras, tu seras aussi fort que nos rugbyman. Hein.
C'est possible. Vous êtes excellent. Continuez.
Salut Guillaume.
On se retrouve dans deux ans.
Allez, à bientôt. Je leur ai mis à mes copains aujourd'hui.
Oui, depuis tout à l'heure, oui.
Oui.
Dans une seconde Monaco. Est-ce qu'il faut faire la grande révolution? Cet été, quel que soit le classement, la grande révolution va sans doute avoir lieu. Avec qui, comment, on vous donne les détails dans une seconde et on vous donne la parole surtout pour débattre. À tout de suite.
RMC 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme avec Manu Petit, avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour. C'est la dernière demi-heure de Roten sans flamme du soir. On est là jusqu'à 20h. Dans 15 minutes, c'est le quiz de Julien Cazard. Restez bien avec nous avec un super cadeau à vous faire gagner. Mais avant, Jean-Louis, un bon ring des supporters.
Oui, la semaine dans une résidence Lagrange, c'est ça le cadeau à gagner dans le quiz. En plus de la gloire de participer à une éventuelle cuillère de bois de Jérôme. Voilà. On n'est que mardi, hein. Pas sûr quand même que tu fasses une cuillère de bois. Oui, c'est les 5 défaites sur la semaine.
Oui, ça te dérangerait, toi.
Non, mais franchement, ça m'étonnerait. Voilà, on ne peut pas l'annoncer dès maintenant. Oui. Pour vous inscrire, vous envoyez top par SMS au 732-16. Et je t'ai mis plein de points encore hier. C'est incroyable de me faire un procès d'intention.
Non.
Top par SMS au 732-16. Ah, tu tiens pas la pression. Monaco, tout de suite, on y va.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors, donc, on a parlé du maintien, il y a la course à l'Europe. Et dans cette course à l'Europe, Monaco peut être le grand perdant. Monaco, il y a quelques semaines, on en parlait pour être sur le podium. Même Jérôme, tu parlais un moment du titre pour Monaco s'ils se mettaient en route. Et à l'arrivée, ils vont peut-être être hors du top 5. Et peut-être même dès ce week-end, en cas de défaite à Rennes. Alors, on annonce pour l'été prochain la grande révolution de l'effectif, qui sera sans doute mené par le nouveau directeur sportif, le brésilien Thiago Scuro, qui devrait remplacer Paul Mitchell, lui aussi membre de la galaxie Red Bull. Alors cette grande révolution est-elle indispensable, quel que soit le classement de Monaco ? Cédric monte sur le ring des supporters, Jérôme.
Salut Cédric.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue Cédric.
Merci.
Bon alors on te laisse parler de cette formidable saison de l'AS Monaco.
Ah, je vais rester calme, mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait une révolution et une grosse révolution. Alors, pas au niveau des joueurs essentiellement, il y en a quelques-uns à changer, mais c'est surtout, et tu te dis souvent ça Jérôme, jouer à Monaco c'est un contexte particulier, donc il faut des dirigeants qui ont du caractère, là, il se passe plus rien. Monaco est en train de sombrer gentiment, on va peut-être même pas se qualifier pour la Coupe d'Europe, personne ne gueule, personne ne monte au créneau, même l'entraîneur, il est plat. Complètement plat, comme le pays d'où il vient, la Belgique. Il n'y a aucune réaction. Ça m'embête énormément. Ça ne viendra pas des supporters parce que c'est à Monaco, c'est très compliqué. Mais il faut que ça bouge absolument. Alors, ce qui me fait peur, la révolution, je veux bien, c'est facile de le dire. Mais le directeur sportif qui arrive, c'est la même école que Paul Mitchell. Ils viennent, comme vous le disiez tout à l'heure, de la fameuse filière Red Bull. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est pour se faire du trading encore? Et moi, ouais, il faut que ça bouge parce que Monaco, il faut des joueurs de caractère, je me répète, mais c'est ce qui a manqué sur la fin de saison. Et puis un entraîneur qui a du caractère aussi, parce que là, Kovac, il y en a qui ne l'aimaient pas, mais au moins il a imposé ses règles. Clément, des fois, il suspend un joueur parce qu'il est arrivé en retard à un brief. Et notre meilleur joueur, notre buteur, qui sort alors qu'on perd 2-1. Non, il faut que ça bouge. Là, c'est plus. Ils ont presque réussi. Hein. Et franchement, j'ai 50 ans. Hein. Je supporte Monaco depuis l'âge de 13 ans. Et ben, j'arrive presque plus à regarder les matchs tellement je m'ennuie. Donc oui, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait des joueurs de caractère qui s'identifient à Monaco. Et moi, je lance même un appel à un joueur comme Manuel Petit. On sait comment il aime Monaco. Non, mais pour intégrer, moi, voilà, impulser l'énergie et commencer le contexte
ces
de Monaco.
Ces derniers temps, je viens souvent à Monaco. Hein. J'y retourne au mois de juin, fin juin, justement, pour voir des sponsors.
Moi, j'en suis loin de Monaco. Hein.
Quand tu retournes à Monaco, Manu, tu peux être botté nu quand même, parce qu'il n'y a pas des enfants de 30 et quelques qui tirent papa. Il n'y a pas
des petits blonds.
Des petits blonds qui disent papa.
C'est Eric qui dit ça, non?
Bien sûr que c'est Eric qui dit ça.
C'est l'hôpital qui se moque de l'infirmerie. Hein.
Oui, t'as raison.
C'est ça, même. Je vois Eric Dimeco, il n'est pas resté longtemps. Il est resté une année après, il s'est blessé. Mais voilà, quand il y avait Marcel Thib à l'époque, moi, c'est ce type de joueur, un Verratti au milieu de terrain qui, des fois, va gueuler après l'arbitre ou autre. Non. Il faut une révolution avec des joueurs de caractère et des dirigeants de caractère, parce que sinon il se passera jamais rien à Monaco. Et on le voit, hein, même au niveau des médias, quand il se passe rien à Monaco, on n'en parle pas du tout, on devient une équipe lambda.
Ces derniers temps, je suis allé souvent à Monaco, j'assiste à des matchs au Stade Louis II, notamment la belle victoire contre le PSG, celle qui a été faite également contre Lorient de mémoire, c'était une belle victoire aussi. Il y a une défaite qui me laisse en travers de la gorge, qui pour moi symptomatique et symbolique justement de ce que peut penser certains joueurs, la mentalité qui peut régner au sein de ce club. On a vu que pendant quelques années, depuis quelques années, Monaco est un club tremplin, un club qui est là pour faire des plus-values sur les transferts. Ils l'ont fait de façon admirable pendant X années. C'était probablement un des clubs en Europe qui était le plus
rentable.
Rentable, voilà. Je me rappelle c'était après la défaite contre Montpellier 4-0 à domicile, c'était tout récent, hein, ça a un petit peu terni les espoirs et ça a un peu douché tout le monde à ce niveau-là pour le podium et la place de Champions League, où je me rappelle de l'entraîneur qui avait fait cette phrase qui a été très très mal passée auprès des supporters de l'AS Monaco, pas simplement en principauté mais en France, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui suivent l'AS Monaco en France. Et qui avait dit tout simplement, si les joueurs continuent à jouer comme ça, ils ne pourront pas justement espérer avoir un transfert. Moi, ça me choque Ça veut dire que quoi, le Monaco est devenu un club satellite,
un tremplin,
en fait.
Ouais.
Et c'est devenu un club satellite. Je pensais que Monaco déjà avait un club satellite en Belgique. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était simplement le haut de la pyramide et que c'était justement une consécration pour ces joueurs-là, pour essayer de jouer à la fois le titre chaque année, et éventuellement la Champions League, et puis dans X années, s'en servir aller dans un club.
Comme ça, c'est
mais j'ai l'impression que, en fait, c'est un club transit. Un club de transit aujourd'hui où on n'a pas une feuille de route, on n'impose pas justement une rigueur sur le plan sportif aux joueurs. Tous espèrent justement être dans la lignée des Bernardo Silva, des Badiachile, de tous ces joueurs qui ont été achetés à coups de dizaines de millions d'euros avec assortis justement de salaires astronomiques. Mais moi, je leur dis, les garçons, si vous continuez comme ça, en sachant que cette saison en plus, où on voit un Paris Saint-Germain qui est quand même médiocre sur le plan sportif, malgré tout, ils sont champions de France. Je me dis, à part Lens, qui a été vraiment un adversaire coriace, à la fois pour le PSG, mais pour Marseille, je me dis, il y a quand même de grosses déceptions. Donc, même dans un championnat qui est largement à votre niveau, vous êtes de déception en déception. Donc, moi, oui, révolution à tous les étages. Sincèrement, pour faire quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on réplique à chaque fois les mêmes choses.
Pour faire quoi? Pour mettre des gens, essayer de trouver des gens.
Ribolovlev, c'est quoi sa vision? Je n'en ai pas de vision aujourd'hui.
Il en a une. La première vision, après, peu importe qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, à l'arrivée, ça n'a pas porté ses fruits et elle n'est pas bonne parce que le directeur sportif, Mitchell, va s'en aller.
Oui, mais il va être remplacé par un mec qui fait partie de la même structure cautionné par l'entraîneur actuel.
La structure Red Bull
ne change pas.
C'est pour
on
ça, si tu veux, ce qu'il faisait de très bien, peut-être à Salzbourg, par exemple, ou à Leipzig aussi, tu peux pas forcément le faire à Monaco. La preuve, c'est que ça porte pas ses fruits et ça marche pas. Donc, il faut avoir une autre vision du football. Mais en effet, là où je te rejoins,
il y a pas de pression à Monaco.
Non, mais tu peux pas.
Il faut des joueurs qui aient ce caractère.
Non, mais de toute façon, on en revient toujours à la même chose. À Monaco, que ça soit ta génération, c'est quasiment la même avec celle d'Eric, la mienne et celle d'après. Il y a toujours eu des beaux joueurs à Monaco. Mais des beaux joueurs de football parce que ça jouait bien au football.
Oui.
Ça a toujours bien joué au football.
Il y avait aussi une motivation personnelle,
mais ça, c'est une remise en question personnelle. C'est lié à quoi, ça? C'est lié à des joueurs qui s'identifient d'autant plus au club et d'autant plus à Monaco, qui connaissent plus ou moins le contexte monégasque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es écarté de tous ces gens-là. Les historiques, moi, quand je suis arrivé dans le vestiaire, et c'est pas parce que moi, je l'ai vécu que c'était mieux avant, tu vois, j'aime pas cette phrase-là, mais n'empêche que il y avait des garants de tout ça. Il y avait Jean-Luc Etori,
il y avait la volonté,
il y avait
des titres,
il y avait Jeannot Petit, il y avait des gens,
Jouéa, il y avait Lopez Acapon,
le président Campora.
Mais moi, tu sais, je le dis tout le temps hein, quand on parle de l'AS Monaco, compliqué de jouer. Pour être champion là-bas, il faut être beaucoup plus fort que les autres, parce qu'il n'y a pas la pression populaire. Ça te sert des fois quand il y a la tempête, mais des fois ça peut jouer contre toi, donc il faut être beaucoup plus fort que les autres. Et ensuite, à l'époque, il y avait un président qui, rappelle-toi Manu, il montait rarement nous voir. Mais quand il montait, quand on le voyait arriver, on baissait tous la tête. Parce que il était monégasque, il était attaché au club, c'était lui l'identité du club, et il avait une manière, un charisme naturel qui faisait que tu rasais les murs quand il rentrait dans le vestiaire ou quand il venait là-haut à la turbie. Là, maintenant, c'est tous des salariés du club, ils sont tous de passage, comme le disait Manu, et les joueurs aussi. Voilà, donc c'est un gros problème à la gestion à Monaco en réalité.
Et puis ça parle pas français, Eric. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Dire d'un moment, peu importe. Moi,
c'est pas le seul endroit.
C'est pas le seul endroit, mais c'est problématique. Là, tu vas aller chercher un directeur sportif. Tu fais une révolution, soi-disant, où tu veux faire changer les choses. Tu vas chercher un directeur sportif qui est un Brésilien, qui connaît rien du football européen et qui connaît encore rien du contexte monégasque. Et en plus, qui est choisi par Paul Mitchell, qui lui a fait que des bonnes choses. Il est où?
Il y a des choses qui m'ont choqué, Jérôme. Ces derniers temps, je suis allé souvent à Monaco, notamment dans leur nouveau centre d'entraînement de performance qui est juste exceptionnel. Il est somptueux, le truc. Ils ont un outil incroyable. Mais il y a des choses qui m'ont quand même sauté aux yeux. Et d'ailleurs, je leur ai dit, je me suis pas gêné pour leur dire. Il n'y a pas de lien entre le centre de formation et l'équipe 1. Ils sont à des étages inférieurs. Il n'y a pas de passerelle. Je veux dire, il n'y a pas de connexion. On ne sent pas une âme. On ne sent pas justement une ligne directrice, un cap sur lequel tenir. Où on sent tous les joueurs investis, que ça soit des jeunes jusqu'au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'ils sont tous individuellement dans leur bulle. Et il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de, enfin, moi, ça m'a choqué. Je l'ai ressenti dès ma première arrivée là-bas. J'y suis allé quelques fois ces derniers temps. Et je ressens toujours la même chose. Et à chaque fois, je leur dis, il faut absolument changer ça.
Cédric, tu veux ajouter un mot sur tout ce que tu entends au 32-16?
Ouais. Moi, ce que je, ce que que je voulais juste rajouter, je vais rejoindre Emmanuel Petit, parce que j'ai eu la chance au mois de juillet d'aller au stage de préparation avec les joueurs de Monaco à Faro au Portugal. Ouais. Et ce qui m'a choqué, parce que ça, j'avais jamais vu ça, on parle de data. Justement, les joueurs, en fait, et c'est ce que m'avait expliqué, ce qu'on a pu discuter un peu avec tout le monde quand j'étais sur place, on fait tout pour qu'ils pensent qu'au foot. Mais en fait, ils y pensent pas réellement. Tout est fait pour eux. On dirait des ordinateurs, même dans la façon de jouer, qui sont programmés. Et je rejoins un petit peu, justement, par rapport au centre de performance. C'est vrai qu'il y a strictement aucun lien. Avant, ouais. quand on allait voir à Monaco à la Turbie, bah oui, on voyait les spectateurs, on voyait tous les jeunes qui s'entraînaient à côté. Bah non, c'est terminé. Ouais. Il y a une coupure.
Et attends, excuse-moi, comment tu t'es retrouvé à Faro avec eux en préparation?
Ben parce que en fait, je suis un supporter de longue date et j'ai pris, alors je sais pas à quoi ça correspondait, mais c'est les tokens là de, et c'est un petit concours. Il fallait raconter une expérience de que j'avais vécue avec Monaco et ben j'ai gagné. On est parti à deux,
invité par le club. Avec eux. Ben voilà. Super. Et ben Cédric, à bientôt pour reparler de Monaco.
À bientôt Cédric et bon courage.
C'est
pas fini.
Et dans une seconde le quiz. Messieurs, on espère quand même que Jérôme ne va pas vivre la même semaine que Monaco ces derniers temps.
Et après, la cuillère en bois, c'est quoi? C'est une marmite, non?
Plus de 5 défaites de suite.
Plumes, non déjà, ouais. Du goudron, déjà, et
plus gros
gagner.
Qu'une cuillère.
Après. Essaye de gagner ce soir, après tu parles.
Le quiz.
Okay. Le goudron et des plumes.
Ouais. Dans une seconde, avec Julien Cazard, à tout de suite.
La plume, tu sais où je vais te la mettre.
Et, allez, merci, à tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h44 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir. Et qui dit les 10 dernières minutes, c'est le quiz de Julien Cazard avec une belle équipe. Manu Petit et Eric Dimeco qui vont essayer de me battre. Et oui, ça ne leur arrive pas souvent, mais peut-être que c'est la semaine pour me battre. En effet, j'ai perdu hier.
Il n'y a pas des stats dans cette émission-là pour voir un peu combien de fois on l'a éclaté le
si,
lundi.
Si, bah, je les ai sous le nez. Tu veux savoir quoi?
Donc on est ni lundi, ni avec Pascal Olmeta, parce que Eric n'est jamais avec Manu.
Le lundi. Alors, ouais. Moi, j'ai. T'as participé. Alors, exactement.
Ouais, vas-y, t'as les stats. Hein.
Ouais, allez, tout bidon. Allez, Hachène.
25 quiz.
Ouais. Et j'en ai gagné 20. Allez,
t'en as gagné. T'en as gagné 6.
Oui, c'est 19 voilà, défaites. Deux, allez.
Merci, Opta Roten. Allez, on y va.
Voilà, c'est ça. Merci Damien
contre le reste du monde. Saison 2.
Elles sont là les dates. Hein.
Ah bah oui.
David et Vincent sont avec nous pour le quiz. Bonsoir à tous les deux.
Salut les gars.
Bonsoir messieurs.
Salut.
David, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Avec Jérôme pour l'aider dans cette épreuve.
Allez, on y va.
David avec Jérôme et donc Vincent est avec le reste du monde. On rappelle, Jérôme a perdu hier, donc c'est une semaine peut-être de cuillère en bois.
Mais non, ça m'étonnerait.
Non,
c'est pas le genre de Jérôme.
Allez. On va commencer tout de suite avec une question flash. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, on est prêts.
Attention, quel homme politique? Pourquoi tu te marres, Jean-Louis?
Pour rien, c'est Manu, il a un grand
sourire.
J'ai failli prendre un sac.
Quel homme politique brésilien a apporté son soutien à Vinicius?
Lula.
Bonne réponse de Manu Petit.
Bravo, Manu, pour le reste du
Jérôme, t'es avec nous?
Bah non, mais je l'avais, mais il l'a répondu.
C'est ça le principe. Kiksetti, tout le monde joue. Quel joueur de la Juve peut faire Béthune Paris en moins d'une heure?
Betancourt.
Milik. Non. Milik.
Bah, ah, bah oui, Milik, qui c'est qui a trouvé?
C'est Jérôme.
Tu dis qui fait Machet? Je dis, je sais pas, c'est le premier qui m'est venu.
C'est le déni, c'est le déni. Qui que c'est-il a égalisé le petit Eric? Le petit Jérôme. Qui que c'est-il? Quel club de Serie A a les joueurs les plus mal élevés?
Un club de Serie A.
Salernitana.
Non.
Chievo Vérone.
Non.
Alors attendez, stop. Pourquoi, Jérôme?
Ah non, il n'y a pas de réponse.
Impoli. Impoli, bonne impoli. Réponse impoli. Ils sont impolis.
2-1 pour
le reste. Et oui, parle mal, ils sont impolis.
Il y avait quoi ou pas?
Non, mais non, malheureusement.
2-1 pour le reste du monde.
Alors, on va essayer de faire une question un peu plus abordable pour Jérôme. Jérôme, quoi qui kiffe, tout le monde joue en fait.
Oui, prends un joker.
Ah, ouf.
Oh, bah, il est confiant, hein.
Ouais, mais c'est Coach Courbis qui doit le faire. J'ai pas le tableau de poulet. Bon, alors c'est Jean-Louis qui va faire Coach Courbis.
La coach.
Ouais, la coach.
Alors, quoi qui kiffe, Manchester, Cardiff, Leicester, Coventry. C'est très, très, très...
Manchester, Cardiff.
Coventry, Leicester.
Ils ont City dans leur nom.
Oh là 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 là. Il est là, Roland, on sait qu'il parie sur toutes les équipes. Ouais. Il connaît les noms.
Bravo.
Ils ont City dans leur nom. Pas évident, parce que je l'ai testé et je ne trouvais pas. Hein. Bravo. Allez, je pense que Jérôme, faut une question, c'est abusé. T'es pas avec nous. Question, c'est abusé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a
deux quand même. C'est abusé, gros.
C'est abusé. Parce que maintenant, ça vient directement de Doha, les sons.
Oui, il y a un petit décalage.
Quel ancien coéquipier de Jérôme, en 2005-2006, vainqueur de la Coupe de France, pouvait lire dans une boule de cristal ou dans les tarots?
Eh ben c'est comment ça s'appelle Almagro.
Almagro.
oui. Comment il s'appelle? Pouvez lire dans les tarots.
Gallardo.
Dans les boules de cristal. Ah, non, Gallardo. Gagne la Coupe de France 2006.
Ah d'accord. À Monaco?
Bah je sais pas. Non c'est Paris. 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 Yundula, Fro. Qui c'est qui pouvait lire dans les boules de cristal?
Eh ben les boules de Mendy, cristal. C'est
Yepes.
Qui c'est Romain?
Armand.
Liseuse de Bonaventure.
Bonaventure.
Calou,
bonne réponse.
Non, il a dit.
Bah, dit bonne aventure.
Si vous donnez le point à Jérôme, je m'en vais. Je vous le dis.
Eh ben, tu peux partir parce que c'est le point.
Alors, est-ce que c'est sérieux?
Non.
Écoute, garçon.
Ça marche pas là. Dans le Moscato Show, ça marche pas.
C'est bien tenté.
Non, mais il a dit bonne aventure.
Ouais, mais il savait pas qui parlait.
Mais oui, il a enchaîné.
Manu, je vais essayer de vous rappeler le nom justement.
Manu,
c'est là où ça s'appelle une passe D.
Manu, il est là. Il dit bonne aventure.
Il a dit une diseuse de Bonaventure pour savoir que c'était un joueur.
Voilà,
non,
bien joué.
Bonaventure 3-2 pour Jérôme.
Le joueur diseuse de Bonaventure n'a jamais eu sa place à Paris.
Tu vois la différence entre les milieux de terrain et ceux qui sont plus portés sur leur stat.
Je crois que ça a coupé, Manu.
On t'entend.
Je vois pas le rapport. Question le méta, vous allez tous la fermer. Question le méta.
La question le méta. Soit tu réponds bien, soit.
Je vais chier sur ton scooter.
Et ça fait un point en moins.
Jérôme. Regarde-moi dans les yeux, Jérôme.
Oui, bah vas-y, je triche pas, moi, de toute façon.
En 2010. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Et c'est pour qui ça?
C'est pour Jérôme.
C'est Jérôme tout seul.
Le méta.
Tu peux répondre, hein, ça me fera un point.
Non. Ouais. En 2017, Jérôme, qui élimine l'AS Monaco de la Ligue des Champions?
La Juve.
Bonne réponse de Jérôme Roten.
4-2 pour Jérôme.
Attention, qui que c'est Idon Charade? Prends Joker.
Non, il avait qu'à le prendre. Il a commencé mon premier, c'est fini.
Allez, c'est bon. Mon premier est des neiges chez Disney. Mon deuxième est un mousquetaire. Mon troisième est une
articulation. Reine Adélaïde.
Mon deuxième est une articulation qui permet de joindre la cuisse au bassin.
Reine.
Mon quatrième est l'outil du boucher pour accrocher la viande. Et mon tout est champion de France avec Lille.
Renato Sanchez,
bonne réponse.
Solide sur les charades, Manu. Hein.
Ah, c'est surtout le boucher qui a fait la différence.
Bien sûr, 4-3.
Ça me rappelle un truc. En fait.
On est d'accord, merci. 4-3.
Des soirées qu'on ne veut pas.
Oui.
On ne veut pas connaître ta tête.
Mais oui, on ne veut pas savoir.
On va parler de cette finale de 2017 qui nous a tous fait rêver. Rappelez-vous, 2017, Ligue des Champions, la Juve. Et vous allez me citer chacun à votre tour le nom d'un joueur de cette Ligue des Champions. Vous, c'est, quand je dis vous, c'est-à-dire Jérôme Roten et Manu Petit.
C'est quoi, c'est un duel entre les deux, pas Eric.
Duel. D'accord.
Mais quel match?
Il y aura un duel.
C'est la finale.
Quel scandale.
La finale, ouais.
Quelle finale?
2017.
La finale de la Ligue des Champions.
Juve-Réal.
Allez, vas-y.
Juve-Réal, 2017. On commence par Jérôme.
Bonucci.
Bonucci, c'est bon.
Ronaldo,
c'est bon.
Jérôme,
une fois.
2017.
C'est deux points. Ça.
Jérôme, deux fois, c'est deux points.
Ah, c'est bon, c'est bon.
Attends.
Vite. Par contre,
c'est bon.
Sur le 3.
Allez, c'est bon.
Bouffon, c'est bon. Par contre, je resterai plus de temps maintenant.
D'accord.
À Jérôme. Manu.
Ramos,
c'est bon.
Ouais, facile. Jérôme. Real, Manu.
Une fois.
Ah, il y a le Real aussi.
Mais oui.
Oh là là, mais j'ai envie de te taper, mec.
Benzema, c'est bon. Manu.
Ah, oui. Marcelo.
Ah, oui, d'accord. C'est bon.
Modric,
c'est bon.
Casemiro.
C'est bon.
Kroos.
C'est bon.
Bien joué.
Isco. Isco.
Il est titulaire.
Jérôme.
Asensio,
est-ce qu'il rentre, Asensio?
Ou Lucas Vasquez.
Asensio. Il rentre.
Ah bon?
À toi.
Pjanic.
Quoi?
Ben non.
La Juve.
Ah, non.
Pjanic, bien sûr qu'il y est.
Joue, oui. Bien sûr,
Daniel en a parlé d'ailleurs hier, la groupie du
Juve. Pjanic, je suis sûr. Mario Bartoli.
Une fois.
C'est Courtois, Navas qui joue.
Navas, bonne réponse.
Non, mais ça fait deux fois qu'il prend deux heures.
Sérieux, le mec,
face à la de la Juve.
T'as le temps, vas-y. Qui dira?
Non.
Kedira.
Non.
C'est pas bon, Kedira.
Et j'avais.
Ah, si, c'est bon.
Oui, c'est bon.
Non, parce que toi, tu le penses au Real, Manu. Il est joué à la Juve, t'as de la chatte. T'as de la chatte à Dédé.
Bon, allez, Jérôme.
C'est nominatif.
Carvaral,
c'est bon.
Avec Ramos, Manu.
Dibala.
À toi, Jérôme.
Lucas Vasquez, c'est pas bon.
pourquoi c'est pas à toi, si t'en as un Manu Dagui.
Ah, mais bien sûr que j'en ai un. Monsieur Daniel Vels.
Daniel Vels, il joue dans
le
Il a l'ordi devant lui. Quel est ton joueur préféré de ce Real Madrid en 2017? Ton joueur préféré, et eux, ils vont devoir dire.
Mon joueur préféré.
Ouais, tu le dis. T'as vraiment ton joueur préféré. Hein. Et vite, 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 fais vite, on n'a pas le temps. Vite, voilà, tu fais. C'est bon. Qui a joué la finale, hein, on est d'accord. Hein.
Il a joué titulaire, la finale. Titulaire.
Il a joué, la finale.
Je sens qu'il a choisi un nom.
Titulaire, il a joué la finale ou pas, Jérôme?
Oui.
Jérôme, Manu.
Quoi, je vais donner le nom qu'il a dit.
Le nom d'un mec du Real, qui est le préféré de Jérôme. Vas-y.
Je vais dire l'autre au milieu là. Vas-y. Non, en défense centrale, Ramos.
Ramos. Et toi, tu dis qui, Eric?
Modric.
Modric.
Ah, dommage, c'était Kroos.
Aïe.
Il fallait pas mener les deux milieux.
Je reprends le joker.
Il reprend le joker.
Il a un deuxième joker. Ouais, mais c'est Gilbert qui va le faire.
Non, merci, j'ai autre chose à foutre.
Ouais, c'est comme si tu donnais.
Il va imiter Gilbert.
Pas pendant les jingles. Et surtout que Gilbert n'a rien d'autre à foutre, il est là. Mais bon, c'est pas grave.
Yeah, Gilbert. Comment dirais-je?
Pour le LOSC. Qui a quoi dans le dos, Isma? Qui a quoi dans le dos? Pour le LOSC, champion de France 2021, en numéro 5.
Batman.
Il a triché.
Il a célébré comme en 98.
Voilà,
ouais, c'est incroyable.
Qu'est-ce que j'en ai à faire de Newcastle? On parle de Lille.
Allez, bravo Batman, Manu. Bravo à Vincent qui remporte la
semaine
dans une résidence Lagrange.
Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Dans un instant, ouais. Génération After avec Nico Jamin.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis. On est ensemble jusqu'à 22h et puis l'After jusqu'à minuit comme tous les soirs. Un débat Marseille avant le terme de la saison. Cette question, tiens, et vous préférez la saison de l'OM de Tudor ou celle de Sampaoli? On parlera également de nos attaquants en Ligue 1. Ils sont 5 à plus de 20 buts, ça peut monter à 7 en fin de saison. Est-ce le signe d'un championnat qui va bien ou juste une exception? Et puis on parlera de Neymar avec Julien Laurence. Y a-t-il vraiment une piste à Manchester United? L'avis également d'un de nos intervenants ce soir, hein, qui se donne de l'absence de réaction des instances du foot français après la polémique Vinicius en Espagne. Compliqué de parler avec le bordel autour. Hein.
Ouais, c'est compliqué.
Tiens tes équipes, hein, Jérôme.
Pour rester concentré. Non, c'est les tiennes, Nico. Je suis désolé. Voilà. Donc, Nico, bonne émission. Eh oui, c'est tes intervenants. On ne peut pas dire ancien joueur, on a dit intervenant. Donc, moi, je vous donne rendez-vous demain parce que Roten sans flamme s'arrête pas de la semaine. Bien sûr, du lundi au vendredi, de 18h à 20h. On est là demain, bien sûr, pour encore une magnifique émission. Bisous à tous, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Prime Video, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.